91.
Plus on avance en métaphysique, plus il fait chaud. Vous voyez, c'est... Ben, ça commence à chauffer. Alors, je vous ai dit ce matin que c'était un vol, une vision aérienne que je vous donnais, ce qu'il fallait quand même à vous dire. Alors, quand on sait la rapidité des avions d'aujourd'hui, on voit. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait pas mal de questions. Je vais essayer de répondre. Pourquoi la dialectique empêche-t-elle l'interrogation? Je prends ici la dialectique telle qu'elle est un peu à son sommet, c'est-à-dire chez Hegel. C'est très vieux, la dialectique. Hein. Elle existe chez Platon. Aristote l'accepte au niveau des opinions. C'est quand même intéressant. Au fond, Aristote considérait que la plupart de l'enseignement aujourd'hui qui se donne dans les facultés de philosophie, où on donne une interprétation des diverses philosophies, et qu'on compare cet enseignement. Ça, c'est de la dialectique. On compare Descartes et Kant sans chercher la vérité. Dans la dialectique, on ne cherche pas la vérité au sens d'Aristote. On habitue l'esprit à avoir des opinions diverses, à réfléchir sur ces opinions diverses. C'est intéressant, n'est-ce pas ? En quelque sorte, c'est presque l'histoire des pensées. Une espèce de topic historique sur tel ou tel sujet. Ça, c'est de la dialectique. Et la dialectique est faite pour nouer l'intelligence. Ça, c'est la dialectique telle qu'Aristote la pense. Vous retrouvez un certain cheminement dialectique dans Plotin. Je me souviens, quand j'enseignais Plotin à Fribourg, qu'il y avait un jeune professeur qui aimait beaucoup Hegel. Il me disait toujours, comme Plotin me fait penser à Hegel. C'est vrai qu'il y a une certaine pensée dialectique chez Plotin, très différente, beaucoup plus descriptive. La pensée, ensuite, le sic et non des théologiens. Voici ce que certains disent, voilà ce que d'autres disent. Dans saint Thomas, vous avez toujours ça, ce qu'on appelle les objections. En réalité, ce n'est pas des objections. C'est une topique théologique sur quelques grandes opinions. En opposition avec ce que saint Thomas dira. C'est pour nouer l'intelligence. C'est une dialectique. Je connais quelqu'un, c'est un juriste, qui dit que la pensée de saint Thomas est une pensée dialectique. À cause de ça. Je dis, c'est pas une pensée dialectique, parce que chez saint Thomas, il y a une recherche de la vérité. Mais il y a quelque chose d'analogue. La dialectique a pris toute sa force chez Hegel. C'est pour ça que quand on parle de dialectique, on pense à Hegel. Mais, vous voyez, ça a toujours existé, hein, comme une manière de penser. Pour Aristote, la dialectique est au niveau de l'opinion. La science est au niveau du nécessaire. Point de vue logique, c'est très net. Une démonstration qui se fait en matière nécessaire, c'est scientifique. Une démonstration qui se fait au niveau opinable des opinions, c'est dialectique. dans la pensée qu'il y ait. Hegel n'a jamais dit voilà ma méthode dialectique égale à pensée. C'est vrai, c'est extraordinaire comme Hegel fait peu d'introduction. Il vous plonge dedans. Il a une totale confiance en son raisonnement. Aucun préambule. Il entre à fond dedans tout de suite. C'est beau, ça prouve qu'il y a une totale confiance en la raison. Une fois qu'on lui présente la réalité, la vérité n'a plus qu'à marcher. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dialectique naît à partir d'une réflexion sur la vie de l'intelligence et le développement de l'intelligence. L'intelligence est assez grande pour croître d'elle-même et par elle-même. Je crois que c'est cette totale confiance qu'on fait en l'intelligence, en la raison. Parce que Hegel l'appelle la raison. La philosophie est arrivée à une maturité suffisamment grande pour qu'elle puisse se développer elle-même. Alors on assiste à la croissance de la vie de la raison. Donc ce qui l'intéresse, c'est de voir comment l'intelligence peut croître par elle-même. C'est pour ça qu'elle n'interroge pas, vous comprenez. C'est comme Platon. Platon, disciple de Socrate, le premier Platon, qu'on appelle socratique, interroge. Et le dernier Platon n'interroge plus du tout. Il développe de lui-même. Vous allez me dire, c'est normal, quand on est jeune, on interroge. Et quand on est plus un peu de bouteille, on n'interroge plus. C'est vrai, il y a un peu ça. Mais chez Platon, chez Hegel, c'est très conscient. Dans la pensée hegelienne, il n'y a pas de distinction entre la pensée philosophique et la critique. Il faut toujours aller de l'un à l'autre. Ça existe chez certains penseurs, même thomistes. On a dit, vous faites de la critique, mais non, je fais de la métaphysique. Alors qu'en réalité, c'est de la critique. Mais il ne faut pas la distinction. Je crois que c'est une erreur. Je crois qu'on doit faire la distinction entre la pensée philosophique et la critique, bien que chaque fois qu'on avance, on doit avoir un rétroviseur. Et le rétroviseur, c'est la critique. Voilà ce que j'ai fait comme démarche. Voilà pourquoi. Vous voyez ? Donc, une attitude réflexive. Le rétroviseur, c'est une attitude réflexive. Regardez un gosse qui s'amuse avec un rétroviseur, c'est très amusant. La première fois, lorsqu'on te voit, c'est un grand. La première fois, il monte des regards. C'est comme la première fois qu'un gosse se met à se pencher, il voit le spectacle entre ses jambes, un rétroviseur. Tout ce qu'il a fait comme démarche, devant, puis tout d'un coup, il s'abat, puis il regarde en dessous, puis il voit tout derrière. Ça l'amuse beaucoup. C'est rétroviseur, ça. C'est la critique. Et bien, la dialectique fait les deux. C'est ça qui est très, très curieux. Je crois que c'est la séduction de la dialectique, ça. Il y a une très grande séduction de la dialectique. Donc, c'est l'intelligence qui réfléchit tout le temps sur sa propre croissance. Un des slogans... Parce que toujours, toutes les philosophies veulent se rattacher à l'ancienne Grèce. Heidegger se rattache à Parménide. Saint Thomas se rattache à Aristote. Saint Augustin à Platon. Hegel à Héraclite. La guerre est la source de toute chose. Le développement de la pensée se fait comment ? Par la négation et l'affirmation. D'où devenir, Aristote le dit, implique les deux contraires. Vous ne pouvez pas comprendre un devenir, une croissance, sans voir les deux contraires. Et comme l'aspect de la finalité n'est plus vu, c'est une espèce de rétroviseur sur le devenir en tant qu'il est pensé. Or, l'opposition la plus grande, c'est la contradiction. Ceci est, ceci n'est pas. C'est l'opposition la plus grande. Affirmation et négation. Eh bien, la dialectique se servira de la négation et de l'affirmation pour progresser. On aura donc, au point de départ de la dialectique, ceci est, ceci n'est pas, implique la synthèse, le devenir. Le devenir et tout devenir implique la synthèse de l'affirmation et de la négation. De la négation et de l'affirmation. Je crois que ceci nous fait comprendre ce qu'est cette vitalité de l'intelligence dans la dialectique. C'est la vitalité de l'intelligence dans une immanence complète. Je ne recherche pas une finalité, je ne recherche pas une vérité, je recherche une harmonie profonde entre affirmation et négation, entre deux opposés. Quand je frotte deux silex, jaillit l'étincelle. Le début de la théologie, il ne faut pas l'oublier, les théologiens et les pères de l'Église l'ont dit. Dans l'Écriture, il y a des paroles de Dieu qui semblent contradictoires. Vous les secouez l'une sur l'autre, de là jaillit l'étincelle. Et comme il est, Hegel, théologien, je crois qu'il y a beaucoup de ça. Je frotte profondément affirmation et négation, d'où jaillit. Et ce n'est pas une vérité qu'on cherche en dehors de nous, c'est à l'intérieur du cheminement de la dialectique qu'on découvre la vérité. Oui, c'est la totalité, le dépassement des contraires, le dépassement de toute contradiction. C'est toujours comme ça que la démarche de la dialectique se fait. Donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'interrogation. Pour interroger, il faut accepter que la réalité que j'expérimente ne soit pas entièrement connue. Qu'il y a quelque chose dans la réalité qui me dépasse et quelque chose que je connais. Et donc, à ce moment-là, je suis dans l'émerveillement, dans l'attention et l'interrogation arrive. Si tout est pris à partir du vécu, le vécu de l'affirmation et de la négation, vous comprenez bien, il n'y a plus possibilité d'interrogation. Vous allez tout de suite comprendre, j'espère. C'est difficile, je suis tout à fait d'accord, c'est pas commode. Et en même temps, c'est une simplicité enfantine. On est beaucoup trop grand pour comprendre ça. Les enfants comprennent ça tout de suite. Affirmation et négation. Le point de vue de la contradiction, ceci est, ceci n'est pas. Id quod est, id quod non est. Le latin a l'avantage d'isoler la négation. Français noie la négation. Hein, vous voyez bien. La négation enveloppe le verbe, c'est drôle. Hein. Une attaque sournoise. Détruit tout. Alors, il y a le ceci qui demeure. Mais est disparaît. Tandis que non-est, ça c'est d'un seul côté. Si pas, il y a quelque chose là à chercher. Affirmation et négation. Bon, l'affirmation et la négation. Pour Aristote, ceci et ceci n'est pas. Il reste rien. Quand vous dites ceci n'est pas, qu'est-ce qui reste ? Rien. Quand vous dites « it quod est, it quod non est », il ne reste rien. C'est pour ça qu'on dit que la contradiction n'a pas de sujet. On détruit tout. C'est tout. Et par le fait même, il ne peut pas y avoir une synthèse de la contradiction. C'est impossible. Et on ne peut pas dépasser la contradiction. C'est impossible. Dépasser la contradiction, c'est quoi ? C'est dépasser le néant. Dépasser le néant, dépasser le non-être. La contradiction est au niveau de l'être. Être et non-être. Y a-t-il quelque chose au-delà de l'être et du non-être ? Rien. Si je pense affirmation et négation, dépassement de l'affirmation et de la négation, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui affirme, c'est l'intelligence qui nie. Donc l'intelligence est au-dessus de l'affirmation et de la négation. Est-ce qu'elle peut les deux ? J'ai la capacité d'affirmer et j'ai la capacité de nier. Je domine. Je domine complètement la situation. Donc au-delà de la contradiction, il y a la subjectivité de l'intelligence. Ah ! Commencez à comprendre la différence entre l'objectivité et la subjectivité. Oui, on revient pour que vous entriez davantage dedans. La subjectivité a cette chose merveilleuse, c'est qu'elle dépasse la contradiction. Je suis maître de la situation. Allez, battez-vous sur le champ de bataille. Moi, je suis là, dans ma tour. Il ne reste plus rien. Moi, je suis libre, champ de bataille. Est libre. J'ai fait batailler être et non-être, ça c'est objectif. Qu'est-ce qui reste ? Moi qui affirmais et qui niais. Vous voyez comment la subjectivité de l'intelligence, la vie de l'intelligence, est au-dessus de l'affirmation et de la négation. Au plan subjectif. Tandis qu'au plan objectif, il n'y a rien. La négation, l'opposition contradictoire est l'opposition la plus radicale. Il ne reste rien. Ceci, c'est pour vous faire comprendre quelque chose de très très important dans toute la philosophie post-hégélienne. C'est le petit livre de Michel Carouge. Un petit livre qui a été écrit il y a quelques années, 15 ans peut-être, au CERF. Pour montrer ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans la philosophie moderne, c'est qu'on désire dépasser la contradiction. Le dépassement de la contradiction, comment ça se fait ? Et on le trouve partout, même en art, le dépassement de la contradiction. On aime de mettre les choses les plus opposées, l'une en face de l'autre. Avant, on aimait les combats de coq, maintenant, on aime de dépasser la contradiction. Mais, les combats de coq, c'est les racines du coq, hein, le coq gaulois, c'est effrayant. Comme les racines, c'est fait fou. Il ne reste plus beaucoup de crête au bout d'un combat de coq. Parce que la crête est rouge, donc ça les excite. Hein. Alors c'est un combat farouche. Alors, dépassement de la contradiction, dépassement du combat. La guerre est le père de toute chose. Hein. La guerre. Le père de toute chose, l'intelligence, dépasse. Je crois que c'est ça qui est au cœur de la dialectique. Vous voyez, c'est ce triangle. Très curieux. Qui est au cœur. C'est l'intelligence qui domine l'affirmation, qui domine la négation. Or, l'affirmation n'est parfaitement elle-même que dans ceci est, et la négation est parfaitement elle-même dans ceci n'est pas. Et donc, c'est le dépassement de la contradiction. Et plus la contradiction est forte, plus l'intelligence s'exalte. C'est très curieux, ça. Les psychologues disent cette fois qu'il y a toujours un âge de la négation. Je crois que c'est 4 ans pour l'enfant, du moins à peu près. Peut-être pas tout à fait la même chose à Paris, et à Lyon, et à Genève, et à Madrid. Mais il y a un âge comme ça, où l'enfant nie. On a beau dire tout pour eux. Et quelquefois, ça arrive chez les grandes personnes. Première réaction, non. Parce que ça ne vient pas de vous. Tout ce qui vient pas de moi, c'est de l'imbécilité. La seule chose intelligente, c'est ce qui vient de moi. C'est ça la négation qui est prise comme un primat. On nie toujours. Va, parle. Je nie. Ça vient pas de moi. Ce qui vient de moi, ça c'est intelligent. Oui. C'est pour ça que je crois que ce qui caractérise la modernité en philosophie, c'est le primat de la négation sur l'affirmation. C'est une question que je me pose tout le temps. Qu'est-ce qui caractérise la modernité? Et à quel moment est née la modernité? Elle est née avec Occam. Le primat de la négation sur l'affirmation. Pour les anciens, avant lui, l'affirmation est toujours première. Et la négation vient après. Il faut avoir quelque chose pour nier. Pour Occam, on n'a pas besoin. L'intelligence s'exalte en niant. Parce qu'elle montre sa suprématie. Elle monte la domination. C'est le primat de la domination, donc de l'efficacité. Alors c'est le primat de la négation sur l'affirmation. Tandis que quand vous affirmez, vous êtes toujours relatif à quelqu'un. Je te donne la main. Donc je te suis. Suivre quelqu'un, c'est être relatif. On n'est jamais premier quand on suit quelqu'un. Tandis que quand vous niez, avant moi, rien. Mallarmé dit ça admirablement, que pour réaliser quelque chose de nouveau, il faut tout nier. Et Heidegger dit, pour découvrir l'être, il faut tout nier. La négation est source de l'affirmation la plus forte, penser l'être. Vous retrouvez ça constamment, d'une manière de saisir un peu. C'est une clé. Qu'est-ce qui est avant l'affirmation, la négation? Selon le bon sens, c'est l'affirmation. Mais aujourd'hui, je me souviens dans certaines retraites que je faisais avant toujours au terminal, ça m'intéressait pour voir un peu la manière dont la pensée humaine se développait. Je me suis trouvé devant, il y a 20 ans de ça. Je montrais que la haine présupposait l'amour. Puis je développais une jeune terminale à lever la main. Ah père, c'est pas vrai. C'est la haine qui est première. Il y a affirmé Moerticus que la haine était première. Oui, ça va ensemble. Au plan du affectif, la négation c'est la haine. Et l'affirmation c'est l'amour. Normalement, on dit que l'amour est premier. Normalement, je crois être la vérité. L'amour est premier et la haine est seconde. Et là, il disait non. Alors oui, c'est très grave, une culture dont la haine est première. Est-ce que ça fait? Il faut haïr. Pour aimer un seul instant. Donc vous voyez comment la dialectique n'a pas d'interrogation possible. C'est le maniement interne, le cycle de l'intelligence. Comment réveiller une intelligence endormie par la chaleur? Comment réveiller une intelligence endormie? C'est lui redonner le sens de l'expérience. Je crois. Ou un très grand amour de la vérité. Premier, un très grand amour de la vérité. Alors à ce moment-là, on est attentif à l'expérience et on reste éveillé. Faut-il que l'expérience de l'amour d'amitié soit parfaite pour découvrir cette première voie d'accès à l'existence de l'être premier? Pas nécessaire. Que, qu'est-ce qui oserait dire que son amour d'amitié est parfait? Pas moi. Pas vous. J'en suis sûr. Puisque vous êtes intelligent. Puisque je peux progresser tous les jours dans l'amour d'amitié. Donc, la découverte de l'être premier sera plus ou moins pénétrante. Ça, c'est vrai. Plus ou moins évidente. Plus ou moins certaine, selon que votre expérience interne et externe de l'amour d'amitié sera plus forte. Quelqu'un qui a une très grande expérience de l'amour d'amitié, un amour d'amitié très intense, et le sens de la présence de l'ami, aura une découverte de l'être premier, beaucoup plus profonde que celui qui a toute petite expérience de l'amour d'amitié, toute petite. Ça, ça me semble évident. Oui, alors là, on saisit le caractère analogique de l'intelligence. On pénètre plus ou moins, on aime plus ou moins. Personne d'entre nous n'oserait dire « Je suis arrivé au sommet ». Mais non. Si on est arrivé au sommet, on n'aurait plus besoin de rester sur la terre. On creuse, toujours plus. On aime, toujours plus. C'est ça qui permet de recommencer tous les jours, avec ardeur. Parce que si j'étais arrivé au sommet, je dirais, demain, je n'aurais plus qu'à répéter, à recommencer. Et par le fait même que c'est une répétition, ce serait beaucoup moins fort. C'est comme la bouteille de champagne. Vous savez, quand on a commencé, vous mettez le bouchon le lendemain, il n'y a plus rien. C'est appétible. Plus rien du tout. C'est un peu comme ça la répétition. Il faut reprendre tout le temps. Alors évidemment c'est fatigant, ça je suis d'accord. Rien n'est plus fatigant qu'une recherche intellectuelle. Rien n'est plus fatigant. Alors quand on a certaines habitudes, on le fait avec joie. On est entraîné. Mais avant d'avoir l'habitus, ça demande une certaine force. Alors comprenez. Cette question-là, c'est comme si vous me disiez, est-ce que nous avons tous la même expérience? Mais non. Ceci est, vous comprenez bien, quand je dis ceci est, ayant fait toute ma métaphysique, ayant découvert ce que c'est que l'existence de Dieu, oh, ça me parle autrement que la première fois je me dis, mais oui, à cette brave marchande de carottes, vos carottes, elles existent. Alors qu'est-ce qu'elle dira? Mangez-les, croquez dedans, vous verrez. Elle n'a que ça à répondre. Ou bien elle aurait caché dans son tiroir de fausses carottes artificielles. Donnez si vous voulez, celles-là elles existent. Alors là, elle se moquerait, elle ferait très bien. Elle aurait une démarche dialectique. Par la négation, vous comprenez l'affirmation. savants ont fait ça dans le commerce. Les bons, les gens qui ont un petit peu de... Si j'étais dans le métier, ce que je ferais, moi, j'aurais toujours l'antithèse cachée. On commencerait à discuter. Tenez, voilà. Alors tout de suite, à ce moment-là, on verrait la différence. Pour montrer que le dernier Larousse est le meilleur des Larousse. Mais ayez à côté le vieux Larousse. Au point de vue pratique, c'est toujours par la négation. Le beurre breton est le meilleur des beurres. On en est convaincu. Quand on a pris à côté du beurre breton, je ne dis pas quel beurre, quel autre beurre, mais un autre beurre, quoi, pour montrer que ce n'est pas la même chose du tout. Goûtez, vous verrez. Il faut goûter les deux, la dialectique, les deux. Sinon, vous n'en goûtez qu'un, sauf si vous avez une très grande expérience, ou alors plus besoin de dialectique, plus besoin de dialectique. Mon palais a gardé toutes les couches de l'expérience. Alors tout de suite, dans l'ordre sensible, on comprend ça très bien, dans l'ordre intellectuel, c'est encore beaucoup plus vrai. Ça se découvre tout de suite. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous voyez tout de suite l'intensité de son expérience. Au contraire, les vieux pneus, ça n'adhère pas. Il comprend rien. Donc vous n'insistez pas. Ou bien alors, si vous êtes très bon, vous faites une démarche dialectique pour qu'il voit. Alors comprenez ce point de vue-là. Faut-il que l'expérience de l'amour d'amitié soit parfaite pour découvrir cette première voie d'accès à l'existence? Plus l'expérience de l'amour d'amitié est vraie, est intense, plus la découverte de l'être premier, si j'ai avec beaucoup d'acuité la saisie du principe de finalité. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Parce que là aussi, on l'a découvert plus ou moins, ce principe, suivant qu'on a pénétré plus ou moins grand, plus ou moins profondément dans la découverte de l'être en acte, de l'être en acte. Et la découverte de l'être premier rivalise-t-elle, relativise-t-elle l'amour d'amitié? Non. La découverte de l'être premier intensifie l'amour d'amitié. Ah, n'ayez pas peur. Dieu n'est pas rival de l'amour. Et Dieu ne peut pas être rival de l'amour, il serait plus Dieu. Nous avons peur, nous. Quelqu'un qui aime, qui m'aime, j'ai peur qu'il aime quelqu'un d'autre. Mais non, il n'y a pas de danger. C'était déjà ce que le vieil Aristote disait. Que dans les sensibles, quand vous regardez un objet très intense, la lumière du soleil, fixez pas le soleil, faites pas l'expérience, hein, c'est mauvais pour l'œil. Mais si vous fixez le soleil, un instant, vous ne voyez plus rien que des étoiles. Vous ne voyez plus rien du tout. Si vous essayez de découvrir l'être en acte, ou si vous essayez de découvrir l'être premier, c'est pas du tout la même chose. Tout effort métaphysique aiguise mon intelligence, comme on aiguise les couteaux. Alors après, ça pénètre bien plus loin. J'espère qu'au terme de ces 5 jours de réflexion, votre couteau intellectuel, votre intellect agent, sera extraordinairement pénétrant. Alors c'est bien dommage qu'on n'a pas pu prendre la photo avant et la photo après. Et on dirait session à Saint-Jodat avant, après. On ne peut pas le faire. ne peut pas le faire. Mais tout effort de l'intelligence, tout effort de l'intelligence en vue de la vérité, je dis bien, en vue de la vérité, parce que ce n'est pas en vue de la vérité, vous accumulez les connaissances, ça ne sert à rien. C'est en vue de la vérité. Alors là, votre intelligence fait d'être plus. Tout le temps. De sorte que lorsque je découvre l'être premier, loin de relativiser l'amour d'amitié à l'égard de Pierre, à l'égard de Jacques, je l'intensifie. C'est ça qui est merveilleux. Je l'intensifie. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que je saisis la cause première, ultime de cet amour d'amitié. Ce pourquoi cet amour d'amitié existe. Il existe pour découvrir l'amour de Dieu. Il existe pour lui-même. Il existe comme un merveilleux tremplin pour découvrir l'amour de Dieu. Il est comme le miroir. Un très beau lac qui réfléchit les cimes. Un Sils Maria, un lac à 2000 mètres dans la haute Engadine. Vous voyez des montagnes qui se reflètent dedans. Et au moment où vous découvrez l'existence de l'être premier et que vous le contemplez et que vous découvrez qu'il est source de tout le reste, vous voyez que votre amour d'amitié est une participation à l'amour de Dieu. Et donc, vous l'intensifiez, vous lui donnez une profondeur qu'il n'aurait pas par lui-même et une limpidité. C'est pour ça que l'être premier, Dieu, ne relativise rien, mais au contraire, permet à tout le reste d'avoir une nouvelle intensité. Découvre-t-on l'existence d'un amour subsistant grâce à l'idée d'un amour aligné que nous portons en nous alors que nous sommes limités, ou bien est-ce ici une nostalgie Descartes? Oui, attention, attention, je n'ai jamais parlé de l'idée d'amour, j'ai parlé de l'expérience actuelle de l'amour. J'aime. L'expérience actuelle de l'amour. Cette expérience actuelle de l'amour me met en lien avec l'ami qui existe. Une personne vivante, aimante. Et je suis en lien. L'amour étant extatique, me permet de rejoindre l'autre. Et grâce à l'intelligence, qui est là pour permettre à cet amour spirituel d'être parfaitement lui-même, je rejoins l'autre, l'ami. Donc je reste dans une expérience vécue et intensément vécue. J'éclaire cette expérience par un principe au niveau métaphysique, le principe de finalité. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Ce n'est pas une idée, ça. C'est un principe qui est toujours lié au jugement d'existence. Qui reste toujours lié au jugement d'existence. Donc à l'homme qui affirme le jugement d'existence. Tout principe philosophique reste lié à l'homme. C'est le propre de la métaphysique, c'est le propre de la philosophie. C'est la différence avec la connaissance mathématique. La connaissance mathématique et les connaissances scientifiques peuvent se séparer de l'homme. je peux étudier la religion. Moi, je ne peux pas étudier la religion. C'est abstrait. Je peux essayer l'histoire des hommes religieux. Mais des hommes religieux. Pas de la religion. Ça n'existe pas. Or, l'histoire, quand même, c'est l'histoire de quelque chose qui existe. Oui, ça n'a l'air de rien. Mais c'est très important de rectifier cela. Toujours ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé, dans tout à fait un autre domaine. Mais quand je voyais la petite Marthe Robin, et que moi je répétais quelquefois, sans faire attention, en prenant le mot abstrait à la place du mot concret, Marthe rectifiait, père, j'ai pas dit ça. J'aurais parlé de religion, Marthe aurait dit, père, je n'ai pas dit ça. J'ai dit l'homme religieux. Ça m'a beaucoup frappé, petite paysanne qui dit ça comme ça. Monsieur, faites attention, j'ai pas dit ça. On voit très bien, la bonne servante. Marthe était la petite servante de Dieu. J'ai pas dit ça, monsieur le théologien. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit l'abstrait, j'ai dit le concret. C'est très très important, vous n'avez pas d'expérience de la religion. Vous faites une dialectique de la religion. C'est l'expérience de l'homme religieux. Si vous l'êtes, vous en avez toujours l'expérience. Et si vous la voyez chez quelqu'un d'autre, vous en faites l'expérience. On vient dans un monastère pour comprendre ce que c'est que l'homme religieux. Pas la religion, mais l'homme religieux. Alors, faisons attention, vous voyez. Découvre-t-on l'existence d'un amour subsistant grâce à l'idée d'un amour infini? Eh bien, je n'ai pas d'idée d'amour infini, puisque l'amour infini n'existe pas. Il n'existe qu'en Dieu. Dieu seul est un amour infini parce qu'il est Dieu. Or, je n'ai pas l'expérience d'un amour infini. J'ai l'expérience que d'un amour qui est limité, qui est mon amour. Et je n'ai pas l'idée, je ne sais pas l'idée d'amour. C'est l'amour vécu que je regarde. Et c'est cet amour vécu que j'éclaire par le principe de finalité au niveau métaphysique. Autrement, je retombe dans les voies d'accès de Descartes qui prétend découvrir Dieu par l'idée d'infini, l'idée de liberté. Eh bien, je dis que c'est impossible. Sartre l'a dit avec beaucoup de force, d'intéressant. Si on a l'idée de Dieu, le Dieu dont on a l'idée n'est pas le Dieu véritable. Là, il rejoint Pascal. Si le Dieu des philosophes, c'est l'idée de Dieu, ce n'est pas Dieu. L'idée de Dieu, c'est forcément l'idée. Toutes mes idées sont limitées. Je n'ai pas une idée infinie. Ça n'existe pas, ça. J'ai des nostalgies d'infini. Ça oui, alors, tout à fait d'accord. Imaginativement. Mais ma pensée porte toujours sur quelque chose de déterminé. Tout le temps. Je peux nier, oui. Mais la négation ne fait pas, à partir de là, surgir l'infini. Il ne s'agit pas de nier l'être pour être en présence de l'infini. Donc là, c'est l'aspect de Descartes. Je ne découvre pas Dieu par l'idée, si belle qu'elle soit, si subtile qu'elle soit. Je sais très bien que Descartes a eu un impact énorme sur la France. Énorme. Et c'est pour ça qu'on a tellement de peine d'en sortir. Et à un moment donné, on n'avait pas le droit à la Sorbonne de critiquer Descartes. Descartes était un dieu. Oui, bon, c'est depuis 50 ans qu'on peut maintenant le critiquer. Mais pas avant. Il y a eu quand même, c'est un progrès. À ce point de vue-là, Descartes était un dieu. Et on considérait que c'était quelque chose. c'est le premier qui a dit preuve de l'existence de Dieu. Ce qui n'est pas juste. Recherche, existe-t-il un être premier qu'on appelle Dieu, puisque le mot Dieu n'est pas philosophique, n'est pas inventé par les philosophes. Le mot Dieu est un mot de tradition religieuse et du théologien. Pourquoi dites-vous que l'être parfait est esprit et que l'esprit parfait est être? C'est parce que c'est la vérité, c'est pour ça que je le dis. Vous comprenez bien. C'est pour ça que je le dis, autrement je ne le dirai pas. Alors on va essayer d'expliquer comment l'être, quand il est parfait, est esprit. L'être est analogique, c'est-à-dire se trouve réalisé dans des modalités très diverses. Une de ces modalités, il faut bien, une de ces modalités, c'est quand même celle à laquelle je pense. Descartes disait, il y a la substance pensante. Et il y a la substance quantitative, celle qu'on mesure. Celle qu'on mesure, c'est la substance corporelle, quantitative. Et celle qu'on ne mesure pas, c'est la substance pensante. Je n'ai jamais mesuré un esprit, une intelligence. Je ne peux pas. C'est qualitatif. Ce que Descartes dit, je peux le penser, moi. Je dis en effet qu'il y a un être physique, il y a un être vivant, et parmi les êtres vivants, il y a des êtres de vie végétative, de vie animale et de vie spirituelle. Et que la personne humaine, c'est un être spirituel. Quand je dis être spirituel, vous voyez, je joins être et personne. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Être spirituel. Je joins les deux. Est-ce que l'être spirituel est plus parfait que l'être physique? Je crois bien. De temps en temps, est-ce que vous avez la nostalgie d'être un caillou? Ça deviendrait dangereux. Vous vous réveillez le matin avec le désir intense d'être un petit caillou. Est-ce que vous avez la nostalgie d'être un animal particulièrement farouche, une lionne? Ou un serpent? Non, je crois pas. Du moins, j'espère que non. Je crois que nous avons tous le sens que l'être spirituel, c'est l'être le plus parfait. Et que l'homme est un être spirituel. Et que le jour où vous ne considérez plus l'homme comme un être spirituel, vous dégradez l'homme. Que l'homme étant un être spirituel est aussi un être sensible, passionné, comme l'animal. Et un être physique, biologique et physique. Tout ça est présent en moi. Ça ne s'oppose pas. Et tout ça se lie. C'est un être. Bon, première constatation, très simple. Seconde constatation, de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Mais là, je suis parti de l'être pour rejoindre l'être spirituel. Maintenant, je pars de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, c'est quelqu'un qui est capable de connaître, d'aimer, de travailler, de réaliser une œuvre, L'esprit domine tout ce qui est matériel. L'esprit, il existe, puisqu'il est capable d'opérer. Seul celui qui est capable de poser des actes existe. C'est la seule manière pour moi de constater qu'il existe. Quand vous êtes en face d'une petite chrysalide qui est dans la terre, qui a la couleur de la terre, bouge pas. Pour savoir si elle vit, qu'est-ce que vous faites? Mettez le doigt dessus. Ça réagit. Si elle ne réagit pas, vous êtes morte. Puis vous regardez de plus près. Puis vous foncez dessus pour voir si ça vit ou ça vit pas. Petite aiguille. Et tout de suite, c'est ce que fait le médecin quand il voit si vous avez encore des réactions au bout de vos doigts de pied. Tape dessus. Après un accident, pour voir où c'est coupé. Puis ça réagit pas. Alors il remonte, il remonte. Voir jusqu'où ça va. C'est le bout du nil. Enfin, voir si ça réagit. Puis on manifeste son être, son exister par mon opération. C'est le vieil adage scolastique, operatio sequitur esse. L'opération suit l'existé. Donc, l'esprit se manifeste à travers ses opérations. Et si à ses opérations, l'esprit existe. Et ses opérations manifestent ce qu'est l'esprit. Il n'y a aucune opposition entre S, l'être, et l'esprit. Si j'en mets une, moi, c'est si facilement nous opposons esprit et être, c'est que nous sommes un peu dialectiques. Et nous pensons que l'être est objectif et que l'esprit est subjectif. Alors, à ce moment-là, je dis, l'objectif ne peut pas être subjectif, le subjectif ne peut pas être objectif. Vous voyez, vous avez identifié être et esprit avec une de leurs propriétés. Ce qu'on fait très facilement, ça, quand on ne creuse pas assez. L'esprit, il est capable de connaître, capable d'assimiler, de tout ramener à lui, sa propriété, son opération. L'être, il est capable, il est intelligible, il est capable de déterminer l'intelligence. Il est source de spécification, c'est-à-dire qu'il a en lui une certaine objectivité. Il est intelligible. Vous voyez, quand vous prenez les propriétés, vous opposez être et esprit. Si vous ne prenez plus les propriétés et que vous regardez l'esprit en lui-même, si l'esprit opère, il connaît, il aime, il existe. Il existe à sa manière d'esprit. Et exister à sa manière d'esprit, c'est de connaître, être capable de connaître, être capable d'aimer. Il n'y a aucune opposition, au contraire. L'esprit, c'est l'être le plus parfait que je peux expérimenter. Et l'être le plus parfait que je peux expérimenter est esprit. Il faut que vous en ayez l'évidence de ça. C'est important. C'est autre chose, hein. Quand j'affirme l'être, quand j'affirme l'esprit, c'est pas la même chose. Parce que ce sont deux manières différentes de regarder la réalité. En affirmant l'esprit, j'affirme belle modalité d'être. En affirmant l'être, j'affirme ce qui est au-delà de toutes les modalités. Donc, il y a une différence de signification. Mais il faut bien comprendre que l'être, dans sa perfection, implique l'esprit. Et que, au contraire, l'être qui est esprit qui est esprit est un être parfait. Alors, dernière question. La question « D'où vient l'être ?» ne pose-t-elle pas le problème de la création ? Oui et non. Je suis normand ici. Oui et non. Ça dépend. Si vous posez la question « D'où vient telle réalité ?» qui existe. Le pose, le comment de cette réalité. Comment l'esprit existe-t-il en moi ? Vous pouvez vous poser la question vous aussi. Comment l'esprit existe-t-il en vous ? En chacun d'entre vous ? D'où il vient ? Vous n'êtes pas l'esprit parfait. C'est bien évident. Puisque de temps en temps, vous vous endormez. Donc, ce n'est pas l'esprit parfait. Un esprit parfait ne s'endort jamais. Tandis qu'un esprit fatigué s'endort. Bon. Au bout d'une heure de cours de métaphysique, l'esprit est fatigué et alors il s'endort. Par le poids du corps et la chaleur aidant, alors on s'endort. Depuis que mettre un petit oreiller, puis d'un certain temps, tout le monde ronfle. Le corps de métaphysique se change en dortoir. N'est-ce pas ? Ça, c'est tout simplement pour montrer qu'on n'est pas l'esprit parfait, n'est-ce pas ? Qu'on est un esprit limité. C'est pour ça qu'on a besoin de passer constamment de la puissance à l'acte. Il y a un devenir constant dans l'esprit. Mais l'esprit comme tel, c'est vrai. L'esprit que je possède, d'où vient-il ? Il ne vient pas de moi. S'il venait de moi, je ne tolérerais pas qu'il soit si paresseux. Je ne tolérerais pas qu'il ne soit pas tout le temps en éveil. Il est limité. Et pourtant, à certains moments, il est parfaitement lucide. Ou au moins, il cherche à être lucide. D'où vient-il ? Alors je me pose bien la question, d'où vient-il ? Vous voyez ? Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, en métaphysique, la question d'où vient l'être ? D'où vient l'être parfait ? L'esprit ? Je ne peux pas dire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de cause propre de l'être et de l'esprit. De cause immédiate, de cause propre. Pourquoi il n'y a pas de cause propre ? Parce que ce qui est, est en acte. L'esprit comme esprit, il n'a pas contact avec sa source. Donc il n'y a pas de cause propre au niveau analyse. Mais c'est vrai, si je pose la question d'où vient l'esprit, d'où vient l'être, fondamentalement, initialement, d'une manière ultime, alors là, je serais bien obligé de dire l'être et l'esprit viennent directement de Dieu. Et c'est ça qui est très curieux. Le petit caillou ne vient pas directement de Dieu. Le petit serpent ne vient pas directement de Dieu. Tandis que l'être et l'esprit relèvent